Allô Daniel, ici c'est Alain de Péménade dans les Alpes-Maritimes. Un grand bravo pour tes émissions concernant les petits peuples de Sibérie et notamment sur les nénettes. Je signale qu'il y a un ouvrage qui a été paru il y a quand même un bon moment, c'était en janvier-février 78, qui s'appelait « Littérature du Grand Nord soviétique » dans la revue littéraire Europe et qui parle justement de ces petits peuples. Et si des fois ça peut intéresser quelques auditeurs, pourquoi pas. Il y avait eu également des émissions sur l'antenne FR3 qui était parue sur Thalassa, sur ces peuples. Également sur le mercredi 18 décembre 2002 sur TF1, il y avait des émissions intéressantes sur la vie à l'extrême en Sibérie. Je pense que ça demande à être connu, surtout que ces peuples ont énormément souffert et qui sont actuellement en train justement de retrouver l'épanouissement dont ils avaient un grand besoin. Merci beaucoup, Daniel. À bientôt.
C'est Philippe de Rouen. C'était pour te remercier de ta série d'émissions sur les peuples de Sibérie, et en particulier d'avoir parlé du peuple Komi, qui est un peuple qui me tient vraiment à cœur et avec lequel j'entretiens des relations très profondes. Et voilà, c'est un voyage extraordinaire auquel tu nous as invités. Et bah voilà, je te remercie beaucoup. Et bonne continuation à tous. Ciao.
Bonjour, ici c'est le collectif de l'appel des 200 de l'Orne et on vous laisse un petit message. C'est une chanson qu'on avait préparée avant les élections et que l'on vous chante maintenant. Allez, à tout à l'heure.
3, 4. On est très nombreux à dire bon. Cette Europe, elle s'est faite sans nous. À chaque fois, l'argent fait sa loi, loi des marchés, des fonds de pension. Il y en a assez, c'est quoi ces noms? On est très nombreux à dire non. Cette Europe, elle s'est faite sans nous. À chaque fois, l'argent fait sa loi, loi des marchés, des fonds de pension. Il y en a assez, c'est quoi ces noms? On est très nombreux à dire non.
C'était Domi, Pascal et Agnès, un enfant.
Salut.
Bonjour à tous. Voilà, je suis mère de 3 enfants et mon mari et moi, on est smicard. On touche moins de 1100 euros chacun par mois, 2200 en tout. Je bosse en usine à la chaîne, avec des horaires à la con, évidemment, 5h15, 14h, ou 14h, 22h45, à 40 bornes de chez moi. Et de quoi je me plains? C'est vrai, j'ai un boulot, une maison, des enfants, un mari. Et si j'avais bossé à l'école un peu plus, j'aurais peut-être une vie meilleure, pas sûr. L'école, justement. Mon fils aîné rentre en septembre en seconde. Les lycées les plus proches sont à 40 bornes de chez nous, et il sera interne. Et ce matin, j'ai reçu une petite lettre me disant qu'on gagnait trop et que je n'aurais pas droit aux bourses départementales, voire aux bourses nationales même. Donc voilà, vive l'égalité des chances pour tous. On va être obligé de se serrer un peu plus sa ceinture, priver les enfants du peu de loisirs qu'ils ont, le sport, la danse. C'est bien d'être vivre en creuse, loin de tout. Pourtant, on aime notre région. Allez, merci, salut.
Oui, c'est Daniel de Aix-en-Provence. Bravo, monsieur Villepin, avec votre CDI d'embauche pour 2 ans. Avez-vous pensé à un jeune couple qui s'installe et qui décide de s'acheter un logement? Il se présente au banquier. Bonjour, monsieur. Voilà, vous travaillez? Oui. Depuis combien de temps? Depuis 18 mois. Ah oui, mais c'est pas sûr qu'on vous garde un tour. Bon, repassez dans 2 mois. 2 mois après, rien du tout. Au chômage. 1 an après, le couple se représente à une banque. Toujours à la même banque. Alors, ça y est, j'ai du travail. Ah bon, ça fait combien de temps? Ça fait 1 an. Attendez encore 1 an, on vous prêtera. Bravo, monsieur Villepin. On voit que vous êtes un riche, vous êtes un aristocrate, fils de riche. Vous n'avez jamais vécu dans la rue. Bravo, encore une fois, monsieur Villepin et Chirac. Vous êtes des lions pour nous foutre dans la merde. Ça, vous êtes des rois. Vous ne cherchez pas à nous défendre, vous cherchez à nous défoncer. Allez, on votera pour autre chose la prochaine fois.
Bonjour, Valérie, chômeuse à foi. Je vais vous dire un texte de George Orwell de 1933. Parmi les nantis de la culture, bien rares sont ceux qui disposent de, mettons, moins de 400 livres par an. Et c'est tout naturellement qu'ils épousent la cause des riches, parce qu'ils s'imaginent que toute bribe de liberté concédée aux pauvres menacerait la leur. Redoutant de voir un jour se matérialiser quelque sinistre utopie marxiste, l'homme cultivé préfère que les choses restent en l'état. Il ne porte peut-être pas dans son cœur le riche qu'il côtoie quotidiennement. Mais il ne s'en dit pas moins que le plus vulgaire de ces riches est moins hostile à ses plaisirs, plus proche de ses manières d'être qu'un pauvre. Et qu'il a donc intérêt à faire cause commune avec le premier. C'est cette peur d'une populace présumée dangereuse qui pousse la plupart des individus intelligents à professer des opinions conservatrices. L'ignorance de la pauvreté conduit tout naturellement à une peur superstitieuse de la populace. L'homme cultivé se représente des hordes de sous-hommes, n'attendant qu'un jour de liberté pour venir saccager sa maison, brûler ses livres. Je dédie ce texte à Serge Julie et à toute l'élite journalistique et culturelle, ayant peur du droit de vote des chômeurs et des pauvres depuis le référendum. Au revoir.
Je vous appelle juste pour donner un point de vue qui me semble important sur la situation en Bolivie. Il est important, il me semble, qu'on prenne conscience en ces moments qu'en Bolivie, il n'y a pas de guerre civile. Il y a une grande mobilisation populaire, ouvrière et paysanne, et qui est en route. 200 000 ouvriers et paysans qui cherchent à récupérer les richesses du pays. Aujourd'hui, on nous parle d'une guerre civile, mais il n'y en a pas tant que ça. C'est pas ça les problèmes. Et je vais simplement attirer l'attention parce que je pense qu'il y a une information, une campagne internationale qui prépare une répression. Et c'est ça qui va être le plus malheureux, c'est qu'on est en train de préparer l'opinion publique à qui se justifie une répression en Bolivie. Les paysans, les ouvriers, les miniers, ils sont sans armes dans les rues. Ils sont d'une manière pacifique. Et ils sont 200 000. Ils sont venus de tous les coins de la Bolivie. Et ils sont à la paz. Et ils veulent simplement récupérer leurs richesses. C'est la conclusion surtout de la pauvreté dans laquelle ils sont semés. Et du mensonge dans lequel ils ont été entraînés depuis 3 ans par la bourgeoisie et par les pouvoirs et d'une pseudo-démocratie qui a essayé de vendre les richesses de la Bolivie. Je pense que c'est important que la solidarité des gens se tourne vers ces peuples qui luttent pour récupérer ce qu'on a tenté de le voler ou qu'on veut le voler, ces richesses naturelles, pour qu'ils puissent être au service des pauvres.
Voilà quelques messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis. Merci pour tous ceux qui nous disent merci pour les reportages que nous vous avons présentés sur le Grand Nord russe avec les nénettes. Et vous savez, pendant tout le voyage avec les éleveurs, je pensais à une femme qu'on a rencontrée au Venezuela, dans l'état de Bolivar, qui s'appelle Casilda. Et Casilda, pour ceux qui nous suivent fidèlement, eh bien, c'est une Pémone. Les Pémones sont des Indiens du sud du Venezuela. Pas qu'au Venezuela, d'ailleurs. Et ce qui m'a frappé, c'était la ressemblance entre certains nénettes du Grand Nord russe que nous avons rencontrés et Casilda. Le même genre de visage, le même genre de physique, le même genre de personne et aussi le même genre d'histoire. Voilà pourquoi aujourd'hui, on retourne à Canaima, au sud du Venezuela, chez ces Pémones, on va retrouver Casilda, on va retrouver les Tépouilles, on va retrouver l'histoire de l'aviateur qui s'était posé sur les Tépouilles, et puis on va retrouver les chutes d'eau fabuleuses de Canaima. Voilà, c'est le voyage d'aujourd'hui, dans la base, si j'y suis. D'autres messages sur le répondeur au 01 56 40 37 37.
Nous sommes des copains postiers du centre de tri de Toulouse-Lardenne et nous voulons vous parler de la situation que vivent nos camarades postiers du centre de tri de Bègles. Pourquoi ? Ben parce que tout simplement ces copains sont en grève depuis un paquet de temps et que pour défendre 48 emplois, on va dire depuis 4 ou 5 semaines, et que dans la nuit du 26 au 27 mai, les choses se sont emballées. Et pour tenter de négocier à nouveau avec leur hiérarchie, bon, ils ont envahi une salle et ils ont occupé leur hiérarchie pour trouver une solution au conflit. Bon, la boîte a prétexté une séquestration. Et face à cet état-là, dit de séquestration, ils ont osé envoyer le GIPN, je dis bien le GIPN, et les CRS. Alors, suite à ça, eh bien, il y a 14 personnes qui sont retirées du service. 9 personnes sont mises en examen Et parmi eux, ceux qui ont des contractuels, un contractuel risque tout simplement demain d'être viré de la poste, tout simplement. Alors on trouve qu'il y a effectivement un abus quoi de force de police par rapport à des syndicats qui sont criminalisés. Et c'est pour cela qu'on vous appelait. Alors, si vous voulez de plus amples précisions, vous pouvez appeler le syndicat départemental. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt pour vous écouter là-bas, bien sûr, si j'y suis.
Oui, bonjour, Daniel Mermet. Je vous appelle de Chambourigaud dans le Gard et c'était pour vous annoncer que nous organisons ici à Chambourigaud une semaine, pendant une semaine, hommage à Jean-Pierre Chabrol, l'écrivain que vous connaissez tous. Donc ce sera des projections de films, ce sera des conférences, ce sera des rencontres, ce sera tout un tas de choses sympathiques et tout ça se passe donc à Chambourigaud. Ça commence le samedi 11 juin par le soir avec un spectacle de Geoffroy qui va chanter. Et donc ça se termine une semaine plus tard, le 19. Voilà, donc on peut me contacter au 04 66 61 44 71 ou email jardindetignac@tele2fr. Merci, au revoir.
Bonjour Daniel, bonjour à tous. Aujourd'hui, 26e semaine de résistance. Le collectif des parents et amis du RPI d'Issor-Lourdios, dans les Pyrénées-Atlantiques, refuse que soit fermée sa classe de maternelle. La poste a déjà été fermée en septembre 2004. À terme, c'est la mort de nos petits villages et la désertification programmée. Pour dire notre volonté de vivre dans nos vallées et réfléchir ensemble à l'avenir de l'école, des services publics et du monde rural dans son ensemble, nous organisons dimanche 12 juin, à partir de 14h, à Issor, près de la vallée d'Aspe, des concerts ponctués de débats. Merci de passer notre message. Merci, au revoir.
Oui, bonjour Daniel et toute l'équipe, c'est Gaëlle qui habite dans la campagne bordelaise. Bon, j'appelle parce qu'il y a un événement majeur qui se prépare demain en Gironde et ce serait dommage que tous les auditeurs ne le sachent pas. Donc il s'agit d'un forum associatif et solidaire avec plein d'associations dont les projets associatifs donc tournent autour du volontariat, de la citoyenneté, de la solidarité internationale, de la rencontre ou des modèles alternatifs et de la mobilité. En gros, c'est une journée militante qui promet, qui promet pas mal de rencontres conviviales, on va pique-niquer tous ensemble, on va bien sûr refaire le monde en espérant aller plus loin et tous ensemble, voilà. Donc c'est à 5 après de Bordeaux, c'est un petit village à 20 km de Bordeaux sur la route de Crillon, dans le pays cœur entre deux mers, et bien sûr c'est sur la place de l'église. Voilà, pour tout renseignement, ben, vous pouvez composer le 05 56 78 76 46. Et puis aussi, bravo pour vos émissions. À très bientôt. Au revoir.
Bonjour Daniel. Je fais partie d'un comité citoyen, celui de Barbezieux en Charente. Jusqu'au 29 mai, nous appelions comité citoyen pour la victoire du non. Nous ne nous sommes pas dissous dans les bulles le 29 mai. L'incroyable surdité des Chirac, Lang et Hollande, les mensonges méprisants des oui-ouistes, leur volonté de culpabiliser ceux qui ont voté non à l'Europe néolibérale souhaitée par le MEDEF, nous a incités à rester vigilants. Nous sommes devenus le comité citoyen du 29 mai pour une Europe sociale contre le néolibéralisme. Il faut que les collectifs et comités qui sont créés dans tout le pays entrent en relation, se fédèrent et se fassent entendre. Ne laissons pas les minoritaires du 29 mai, toujours omniprésents dans les grands médias, mépriser nos bulletins de vote. Nous allons continuer notre travail d'information, organiser des réunions, soutenir et relayer les actions des partis, associations et collectifs clairement engagés à gauche contre le néolibéralisme. Salut Daniel.
Voilà, après le rejet du traité constitutionnel qui nous avait été parachuté par nos élites, le mouvement pour l'initiative citoyenne procède à la mise en place d'une assemblée constituante citoyenne européenne et d'abord d'une assemblée constituante citoyenne française, qui est composée de 300 membres qui sont tirés au sort sur les listes électorales de chaque département au prorata de leur importance. Alors nous avons commencé sur Lyon, où on a eu l'agréable surprise d'avoir les 7 membres du département du Rhône après seulement 33 coups de téléphone des personnes tirées au sort. Nous lançons un appel aux citoyens qui habitent assez près de la préfecture du département pour qu'ils nous aident à tirer au sort dans leur département les inscrits susceptibles de faire partie de cette assemblée constituante citoyenne française. Il faut à peu près 1 à 3 heures pour procéder au tirage au sort. On a une méthode qui est tout à fait au point, vérifiable par tout le monde. Si vous voulez vous charger d'un département, c'est 1 à 3 heures de boulot selon l'importance du département. Nous pouvons être contactés au 04 72 24 65 02 ou sur le site du Mouvement pour l'initiative citoyenne où on trouvera le contact pour des messages internet. Merci, au revoir.
Econe canto, etau chimpanto, econe canto, etau chimpanto, mensaje yenumbu, mensaje yenumbu, mensaje yenumbu, mensaje yenumbu.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Antoine Chao, avec Guy Van Til. Là-bas, si j'y suis, Venezuela, Canaille. Flight number 2,
arriving from... República Bolivariana de Venezuela.
Là-bas, si j'y suis.
Est-ce que
c'est mes chaussures, ça.
Ya, te prends, Laura. Ok, voy.
Ferme la fenêtre, quand même.
Quel avion est, este?
Cessna, 206.
Un Cessna, 206.
Aha.
Quantos años tiene?
Quel âge il a?
20 et pico, tener. Pero los motores se cambian cada 1700 horas.
Il a une bonne vingtaine d'années, mais on change le moteur de temps en temps.
De temps en temps.
Ah bah, il marche impeccable, hein? Quart de tour. Le quart d'hélice, il est parti.
Bon, il n'y a pas la peine de se mettre de ceinture, il n'y en a pas, de toute façon. Et oui, l'hôtesse de l'air.
Voilà, à bord de ce petit avion... On s'en va, on s'envole vers le sud-est du Venezuela, vers une région qui s'appelle la Grande Sabana. Exactement, on va à Canaima. Canaima, c'est un endroit, mais splendide. On a complètement oublié de vous dire, chemin faisant, que le chemin à faire est magnifique. C'est un pays superbe, le Venezuela. Allez-y, promenez-vous au Venezuela avec quelques mots d'espagnol, ça suffit. Et il y a une multitude, effectivement, non seulement de peuples, de gens, de pays, de paysages, de villes. C'est une vraie merveille. Là, la région vers laquelle il y a des paysages très très différents qui vont de la cordillère, qui vont la côte, la mer. Et là, on va vers la forêt. On va vers la forêt, on va vers la savane, on va vers cette forêt dense de l'Amazonie. Paysages qu'on connaît, ceux qui connaissent la Guyane, ceux qui connaissent le nord. Ouest du Brésil connaissent ces régions et ces paysages. Et là, on va dans un endroit qui s'appelle Canaima, auquel on arrive qu'en avion. Alors, on pense toujours que s'il n'y a pas de route, eh ben, il n'y a que des avions. Mais non, il y a aussi les fleuves. Et la navigation a été très importante pour le peuple qui est présent dans cette région, qui sont des Pémones. Le Venezuela, c'était d'abord des Indiens, c'était d'abord des indigènes, comme on dit, et il existe dans le pays, dans le Venezuela, au moins 28 ethnies, c'est-à-dire un peu moins de 350 000 personnes, qui représentent 1,5% du total national, et cette population se trouve répartie dans 8 entités fédérales et se concentre majoritairement dans des zones frontalières. Là, c'est la frontière avec la Guyane. Il y a un conflit qu'on évoquera peut-être. On n'est pas très loin des lieux où vivent les Yanomami, les fameux Yanomami. On va évoquer toutes ces images, tous ces lieux, toutes ces personnes à travers cette heure qu'on va passer ensemble, une heure assez enchantée, assez enchanteresse. Il faut quand même garder cette capacité, ce plaisir de l'étonnement. On finirait par l'oublier. On est tellement inquiet d'user notre indignation ou de manquer d'indignation qu'on oublie tout simplement le plaisir tout simple de voyager, de s'étonner aussi d'ignorer. Parce que là, effectivement, c'est des endroits que nous ne connaissons pas et c'est un plaisir ancien et neuf à la fois. Mundo Perdido, le monde perdu, c'était le titre d'un livre de Conan Doyle. Vous voyez, l'inventeur de Sherlock Holmes, El Mundo Perdido. Il a écrit un livre qui a eu un grand succès et qui a envoyé beaucoup de voyageurs comme nous vers la région où nous allons, la Grande Savana. Pourquoi El Mundo Perdido? Parce que il y a dans cette région un phénomène étonnant, ce sont les tépouilles. Les tépouilles, c'est un mot, c'est le premier mot de Pemon, donc la langue locale que nous apprenons. Et qu'est-ce que c'est que des tépouilles? Eh bien, ce sont des montagnes qui ont un profil particulier. Si vous demandez à un enfant de dessiner une montagne, il va y dessiner un triangle, hein? C'est un triangle, une montagne. Eh bien là, pas du tout, c'est un rectangle. Imaginez un rectangle posé sur la forêt. Voilà à quoi ressemble les tépouilles, c'est-à-dire des massifs rocheux aux parois perpendiculaires à la Terre, à la planète, et avec un sommet qui est aplati et qui peuvent être très hautes. Ces montagnes peuvent être très hautes. Le mont Roraima, par exemple, atteint 2810 mètres. Si bien qu'au 19e siècle, lorsque des biologistes, des spécialistes des plantes et des animaux, de la flore et de la faune sont arrivés dans cette région, ils ont dit « Ah, sur ces hauteurs, eh bien, il y a des espèces animales et des espèces végétales qui sont sans lien avec le reste du monde et qui n'ont pas connu la même évolution. » D'où une passion pour ce monde perdu. Et on a essayé de grimper sur ces montagnes qui sont très très anciennes. C'est les plus anciennes formations géologiques du monde. Les concrétions granitiques qu'on peut observer quand on les survole aujourd'hui datent de 2 milliards d'années. Et on n'a pas trouvé ce que ces scientifiques avaient supposé. Il n'y a pas en fait d'une telle différence, même s'il y a, on est en train de parler de la biodiversité, des plantes qu'on ne trouve pas ailleurs, mais il n'y a pas deux cycles d'évolution distincts. Mais l'histoire de ces fameux tépouilles, c'est l'histoire de Jimmy Angel. Et ça, si vous allez dans cette région, on vous la racontera forcément, parce que c'est une histoire entre l'histoire vraie ou pas, on ne sait pas très bien, mais ça n'a aucune importance. C'est l'histoire d'un Américain qui s'appelait Jimmy Angel. Ça, l'histoire est datée de 1935. Il a bel et bien existé, ce gars-là, vous allez voir. Et il était pilote dans cette région. Il y avait déjà, comme le Cessna qu'on vient de prendre, on se déplaçait sur des petits avions, des petits monoplans. Et Jimmy Angel, il pilotait son Flamingo. C'est un petit monoplan. Il n'avait pas tellement de boulot. Il gagnait chichement sa vie. Et puis un jour, il était comme ça, s'ennuyant un peu au bar d'un hôtel, il y a un Mexicain très riche qui vient le voir et qui lui propose un marché. Il lui offre $5,000 s'il se montre capable de le poser sur un tépouille, à la surface d'une de ces montagnes. Et Jimmy Angel, le pilote, accepte. Et les voilà qui montent tous les deux. C'est un voyage mouvementé, évidemment. Ils finissent par se poser. C'est très difficile. Et ils sont sur un tépouille à 1000 mètres d'altitude. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Vous pensez bien qu'ils ne sont pas venus pour rien. Ils ont emporté une pelle et une pioche. Ils se mettent à creuser. Et en 3 jours, ils ramassent 30 kilos d'or. Parce que, évidemment, c'est une région aurifère, c'est la région des fièvres de l'or, c'est la région de l'or. C'est toujours le cas aujourd'hui, on en parlera. Donc, en 3 jours, ils ramassent 30 kilos d'or. Et ils reviennent en disant, on ne pouvait pas ramasser plus, on avait peur de trop charger l'avion. Donc, ils vivent chacun avec son l'or qu'il a ramassé. Et puis, un an après, le Angel en question, Jimmy Angel, il retourne avec sa femme, avec un géologue et avec l'assistant du géologue. Les voilà tous les quatre qui repartent pour retrouver évidemment l'endroit en question. Et puis, très souvent, ces montagnes sont ennuagées, il y a des nuages. Donc, il se perd, il ne trouve plus. Et finalement, il se pose sur un tépouille, mais c'est pas le bon, c'est pas le même. C'est un tépouille qui est beaucoup plus haut, qui s'appelle la montagne du diable, c'est-à-dire Ohian Tepui, et il se pose, mais dans le brouillard, dans la brume, l'avion s'embourbe, il casse une roue, c'est la catastrophe, plus d'avion, et pas d'or, évidemment, mais la question c'est plus de trouver de l'or, c'est de sauver sa vie. Alors, des jours d'inquiétude, d'angoisse, évidemment, aucune habitation, je veux dire aucune présence humaine, et ils ont décidé de redescendre du haut de cette montagne. Ils ont mis plus de 11 jours pour descendre et d'atteindre un lieu habité. Mais au passage, et c'est ça le plus important de cette histoire, c'est qu'ils ont découvert la plus haute cascade du monde, une cascade qui fait 1000 mètres de haut, 1000 mètres, et que depuis on appelle Salto Angel, c'est-à-dire la chute de l'ange. Et l'avion en question, El Rio Caroni, il s'appelle comme ça, est resté sur le sommet de ce tépouille jusqu'en 1970. Ensuite, on l'a déplacé. Il est visible quand on arrive à l'aéroport de Caracas. Voilà l'histoire, une des légendes fondatrices de la période moderne, évidemment, de cette région. Les histoires plus anciennes, les mythes plus anciens, beaucoup plus profonds, beaucoup plus riches, beaucoup plus forts, eh bien, c'est les Pémones eux-mêmes qui les racontent et qui nous les racontent. On navigue là sur un lac, enfin sur un, oui, une grande étendue d'eau qui est bornée par des chutes bouillonnantes, et on est avec Achira.
Esta playa para allá era una tierra sagrada.
Et tu sais que cette plage là où justement tout est construit maintenant, auparavant c'était une terre sacrée.
Pero llegó los extranjeros y pusieron el hotel ahí.
Et les étrangers sont venus, ils ont construit leur hôtel dessus.
Ça c'est Renault là, hein. C'est le congrès des distributeurs Renault.
Les commerciaux Renault d'Espagne qui sont venus à 80 personnes, donc 4 avions pour venir jusqu'ici.
Vous savez que esto de aquí era sagrado porque era sitio de purificación de las personas.
C'était un rituel de purification qui se faisait ici. C'est pour ça que cette terre-là et cette plage étaient sacrées.
Por ejemplo, cuando las niñas iban a convertirse en mujer, se les venía aquí como a bañarlas. Et se les cortaba el pelo.
Par exemple, comme les jeunes filles, il y avait plein de rituels quand les jeunes filles devenaient des femmes.
Si,
y... Elles venaient ici pour se baigner dans un rituel de purification. On leur coupait les cheveux.
Si, se les colocaba como una especie de tapar la cabeza.
De quel color?
Así como rojo.
Teintaient les cheveux avec des racines avec une, qui donnaient une couleur rouge aux cheveux.
Y entonces era para eso, para hacer ritos.
C'est, donc tous ces rites-là avaient lieu ici, là on est en train d'accoster maintenant.
Entonces, los abuelos decían que esto era un sitio muy privilegiado.
Les ancêtres avaient dit que c'était un endroit très spécial.
Y al construir todo esto, dicen los abuelos que por eso los saltos, los cerros se vengaron ahogando a las personas en el río o se cayeron avionetas.
Et après, on a construit tous ces bungalows ici, et les ancêtres ont dit que les montagnes se sont vengées, et c'est pour ça qu'il y avait des avions qui sont écrasés, des gens qui sont noyés, parce qu'on avait violé ce lieu sacré.
Ouais, donc ça n'a pas été accepté facilement, cette histoire d'installation d'un site touristique.
Non.
C'était quand, ça?
Eso fue en el año 70.
70.
Et aujourd'hui, Ahora, c'est apaisé.
No hay conflicto. Por ejemplo, en la Guardia Nacional aquí, tiene que hacerle caso al cacique. No, la Guardia Nacional no puede tomar decisiones.
No, il n'y a plus de conflit parce que maintenant il y a un accord qui est tombé où par quand on fait appel à la Garde Nationale ne peut pas prendre de décision, ne peut pas intervenir sans en référer d'abord au cacique, au chef local.
Uh-huh. Sí, porque las leyes étniques, las leyes indígenas no se parecían a las leyes nacionales.
Parce que bien sûr les lois ethniques, les lois de notre ethnie et de notre peuple ne sont pas les mêmes que les lois nationales du pays.
Y entonces en nuestra costumbre no hay presos, no hay prisioneros.
Par exemple, dans notre coutume, il y a pas de prisonniers. Il y a pas de peine de prison.
Voilà des gens cultivés dont la culture est évidemment menacée, et c'est une lutte longue que celle des Indiens, là en l'occurrence les Pemon de cette région du Venezuela, et tous pourraient se résumer dans les deux prénoms de cette femme charmante, belle comme tout, qui nous dit, moi j'ai deux noms, je m'appelle Casilda et Cachira, c'est-à-dire j'ai un nom en espagnol, et puis j'ai un nom Pemon, et voilà. Cette double culture peut résumer ce que ces Pemons essayent d'être, c'est-à-dire des résistants, ces gens qui résistent. Hein, c'est la destruction, l'ethnocide que ces Indiens ont subi, enfin comme tous les Indiens des Amériques, et puis toutes les agressions qu'ils ont eues à subir, des missionnaires, et aujourd'hui, ben, le tourisme. Alors comment composer avec le tourisme, puisqu'ils sont, vous avez compris, ils sont partie prenante de ce tourisme. Et on vient de nous parler du cacique, c'est-à-dire du chef traditionnel. Et des accords ont pu intervenir pour que, entre la justice ou les lois telles qu'elles sont faites par l'État du Venezuela et les coutumes, on trouve un accord. C'est pas facile du tout, au point que le nouveau gouvernement du Venezuela a décrété le 12 octobre comme jour de la résistance indigène. Et c'est le mot qui correspond le mieux, résistance. Résistance à quoi? Bah, résistance aux missionnaires, j'en ai parlé. Résistance au tourisme. Résistance aux orpailleurs. J'ai évoqué ces chercheurs d'or qui sont pas toujours des gens très très pittoresques et très sympathiques, dans la mesure où il y a des multinationales qui sont intéressées par l'or dans la région et qui nous évoquent tout ça. Et ben, c'est le cacique lui-même, c'est-à-dire le capitaine, c'est-à-dire José Simón, l'époux de Casilda Cachira. Ah, ce grondement, c'est les chutes, hein, c'est magnifique, on est dans un paysage magnifique, un bouillonnement, c'est un vrai paradis, et on est avec
José Simón, le capitaine.
José Simón, qu'est-ce que c'est être le capitaine?
Ser capitán es ser el máximo representante en una comunidad indígena.
Donc c'est d'être le plus grand représentant dans une communauté indigène.
Vous êtes élu, il y a un système d'élection dans votre communauté?
Sí, es, la élection est démocratique.
L'élection est démocratique.
La comunidad elige los candidatos y por voto secreto se hace la elección.
Donc la communauté choisit les candidats et par vote secret, elle élit le capitaine.
Y dura dos años el tiempo de mando.
Et le mandat dure deux ans.
Alors nous, on est en train de vous dire que c'est un paradis, que vous habitez dans un paradis, mais vous nous dites quand même, oui, d'accord, mais il y a des problèmes. Lesquels?
Sí, ahorita tenemos un problema sobre una concesión para la explotación de madera.
Oui, en ce moment, on a un problème sur une concession d'exploitation de bois.
C'est une grosse exploitation?
Sí, bastante grande y nos
oui,
preocupa mucho.
Oui, oui, c'est une grosse exploitation et ça nous préoccupe beaucoup.
Porque detrás de esto viene la minería, como tenemos el caso, ya hay una minería, una explotación de
oro y diamantes. Oui, ça nous inquiète d'autant plus qu'il y a aussi des chercheurs d'or et de diamants qui s'installent.
Y bueno, la contaminación del agua.
Et bien sûr, la pollution de l'eau, que ça entraîne.
Problemas de droga.
Il y a des problèmes de drogue.
L'alcool.
D'alcool.
Sí, son problemas bastante graves para una comunidad pequeña.
Donc c'est des problèmes assez graves pour une communauté petite.
Est-ce que les choses ont changé pour vous depuis que Chavez est au pouvoir?
Sí, nos ayudó bastante con la nueva constitución.
Oui, il nous a beaucoup aidé avec la nouvelle constitution.
Hay un capítulo especialmente que habla sobre las comunidades indígenas, la ayuda.
Il y a un chapitre qui parle tout précisément justement des communautés indigènes et des aides qu'il faut leur apporter.
La organización, el respeto a las costumbres.
Donc le respect des coutumes.
Derrière nous, le soleil commence à se coucher là. On va pas avoir beaucoup de jours encore.
Il
est 6h moins.
Là de là, on va voir les chutes. Avec derrière,
et voilà, on aperçoit les chutes là-bas. C'est une splendeur.
Et chacune des chutes là qui est là a chacun son nom.
La première, de qui, ce lado, est Ucaima.
La première à droite s'appelle Ucaima.
La segunda es Cauchipa.
La deuxième c'est Cauchipa.
El otro Vadaima.
Vadaima.
Ajá, y el otro Irapa.
Y Birapa.
Y la que se pasa con la que se visita mucho, la turista que pasa debajo de la cortina del agua es Vacavena.
Et il y a celle que visitent beaucoup les touristes en allant en bas en dessous là où on est, c'est Vacavena.
Y el otro que no se ve para allá, hay un que se dice Poredopa.
Et il y en a une autre qu'on voit pas encore par ici qui s'appelle Poredopa.
Mirador Los Saltos.
Sí.
C'est magnifique. Hein? Oh! Wow! On entend au loin, hein, les chutes. Et alors c'est l'heure parfaite. Le jour se couche un peu. Tout cet horizon de chutes, ce bouillonnement. De chute dans la verdure, il y a quelques nuages lourds, mais le ciel est très très bleu, très intense. Et là-bas, c'est plus sombre, il y a toute une masse plus mauve, violette. Et là, il y a un rang de palmiers qui accroche la lumière. C'est vraiment une pure splendeur. Et ces montagnes là devant nous?
Et c'est le Cerro Venado, qui en Pemón est Cusaritipu.
C'est la montagne Cusaritipu, on l'appelle en Pemón.
Mais ça, c'est un tepuy.
Ah, el Ollantepuy está esa partecita que ustedes están viendo allá atrás, donde está así.
Et tu vois là, le Tepuy, c'est celui qui est derrière cette colline là où on voit les nuages qui sont accrochés dans une espèce de plateau qui tombe à pic comme ça.
C'est les montagnes rectangulaires, c'est les grands rectangles avec le dessus qui est plat. Hein, voilà, c'est ça les Tepuy et les massifs autour de nous, c'est ça.
Antes que llegara la gente extranjera, ella era muy sagrada.
Avant que viennent des étrangers ici, c'était des lieux très très sacrés pour notre communauté.
Sí, porque parecía la tumba del cacique.
Parce que ça ressemblait à la tombe du chef, du cacique.
Y por eso no se podía quemar.
la savane, t'as pas prohibido quemar esa parte.
Dans cette région-là, c'était interdit de faire de la culture sur brûlis, de brûler la savane.
Sí, pero ahora, al llegar los extranjeros, se perdió. Casi
la... Depuis que les étrangers sont venus, cette pratique, cette
culture s'est perdue. Para los jóvenes,
en tout cas pour les jeunes.
Entonces seguimos a ver un poco.
Ok.
On continue un peu plus loin.
Ok.
Une splendeur vraiment cette région de Canaima, ce parc national de Canaima, donc je rappelle au sud-est du Venezuela. On est avec Cachira qui connaît bien son histoire et qui fait passer elle aussi ses idées et cette résistance, donc Pemón. Alors son mari José nous a fait état des problèmes de ces voleurs de bois. On a survolé, il nous a montré d'ailleurs effectivement, et reste le problème des missionnaires. Et ça a toujours été un grand problème, évidemment. La colonisation des peuples et de leurs richesses commence toujours par la colonisation de leurs esprits. Ça, c'est une vieille coutume et qu'on connaît bien dans cette région. Alors on pourrait croire que c'est quelque chose qui appartient à l'histoire, et pas du tout. Ça continue. Les églises continuent de perturber la vie locale et de conquérir les âmes.
C'est super. Ah ouais, c'est magnifique.
La comunidad nacieron ellos, Robert y José. Estaba la gente bien, no había pelea, no había ese tipo de problemas hasta que llegó la religión adventista.
Ça, c'est nos villages au Valais, c'est le village d'où vient son mari.
Prohibieron comer.
José y Roberto, c'était un village où les gens vivaient en paix, sans conflit, jusqu'à ce qu'arrivent les adventistes.
Sí, porque primero cambiaron la forma de rezar, ya no se danzó, no se está prohibido la danza de...
Déjà, ils ont arrêté tous les cultes qu'il y avait, ils ont changé toutes les prières, on pouvait plus chanter.
La forma de alimentarse, de comer aves, de comer la cacería, eso se prohibió, no se puede comer carne.
On pouvait plus manger de viande, on pouvait plus manger les oiseaux, ils ont complètement changé le régime alimentaire des gens.
Quand est-ce qu'ils sont arrivés?
Quizás en el año 60.
Dans les années 60, je crois.
Y luego, en el año 90, vino la reforma adventista.
Après, dans les années 90, sont arrivés les réformistes adventistes.
Sí, entonces se han puesto a pelear hermanos con primos, tíos.
Et à partir de moment, les gens ont commencé à se battre, et à se déconflit au sein des mêmes familles, entre les frères, les oncles, les cousins.
Sí, porque el tío de él y la tía, hermanas de su mamá,
l'oncle et la tante,
se convirtieron a la reforma.
Ils se sont convertis à la réforme adventiste.
A ellos, porque no se bautizaron, los nombraron como paganos.
Ni mon mari, ni mon beau-frère ne se sont convertis, et donc tout le monde les traitait de païens.
Sí, paganos.
C'est aujourd'hui, ça se passe comme ça dans cette région, et on arrive dans ce village. Cachira tient beaucoup à ce qu'elle nous emmène là, mais il n'y a rien dans le village. Il se passe rien. On est samedi et le village est désert. La nuit tombe. On aperçoit ces montagnes magnifiques, les chutes là-bas au loin, mais le village est désert. Sauf quand même un peu de lumière et quelques ombres qui se hâtent vers l'église.
Sí, ya un José por el tío. Sí, que están ellos preparándose para entrar a su culto.
Les gens sont justement pas dans les allées du village parce qu'ils sont tous en train de se préparer avant d'aller à la messe.
Si queremos podemos visitar la iglesia.
Si tu veux, on peut visiter l'église.
Ah bah oui, pourquoi pas.
Vous expliquez qu'ils sont venus, ils vont arriver aujourd'hui, le pasteur et son épouse, ce sont des gens très cordiaux, mais que néanmoins ce sont des envahisseurs.
Ouais.
En gros, il est assez hostile.
Eh oui.
Hola. Hola, le pasteur.
Bueno, aquí somos una comunidad religiosa.
Ici, on est une communauté religieuse.
Et nos guiamos por los principios de la Biblia.
On est guidé par les principes de la Bible.
Originalmente, como todas las comunidades indígenas, ellos tenían ciertas creencias en espíritus y cosas de estas.
À l'origine, comme toutes les communautés indiennes, indigènes, ils avaient des croyances
En la medida en que han tenido conocimiento de la Biblia, han abierto su corazón a Jesús y ahora viven conforme a los principios de la Biblia.
Et dès qu'ils ont eu connaissance de la Bible, donc ils ont pris les préceptes de la Bible, ils ont ouvert leur cœur à la Bible.
Et donc ça a été tout de suite mieux.
Indudablemente, porque habían ciertas creencias que alienaban la conducta y el comportamiento de la persona, que es como esclavizante ciertos temores, y al salir de todas esas costumbres o prácticas o creencias esclavizantes, ahora viven un tipo de vida diferente, mejor.
Sans aucun doute, ils étaient esclaves de leurs croyances, et avec cette nouvelle foi, cette nouvelle religion, ils ont été libérés de beaucoup de croyances néfastes.
No solamente lo vemos desde el punto de vista espiritual, sino aún en lo intelectual, es decir, tienen una mentalidad más amplia, más abierta y una capacidad de entendimiento mucho más completa, más profunda.
Donc ce n'est pas qu'au niveau spirituel, mais aussi au niveau intellectuel qu'ils ont beaucoup gagné avec la religion.
Et au plan politique aussi, non?
Nosotros somos apolíticos, es decir, no participamos de ningún tipo de política.
Donc nous sommes apolitiques, nous ne participons à aucun mouvement politique.
Ello es debido a que, como Jesús declaró enfáticamente, el reino de Cristo no es de este mundo. Por lo tanto, nosotros no luchamos por los intereses terrenales, sino por intereses espirituales.
Parce que le règne du Christ ne s'intéresse pas aux choses matérielles. Mais...
Le règne du Christ n'est pas de ce monde.
Je crois qu'on a un très mauvais traducteur. Je ne sais pas comment on va pouvoir faire pour aller jusqu'au bout de ce moment quand même où on rencontre la foi.
Ok, c'est...
Okay. Bueno, tal vez como
si bueno. Quieren estar con nosotros en la iglesia, les invitamos que participen.
Vous êtes invité à participer à...
On va essayer, en tous les cas. Okay. Merci beaucoup.
Okay.
Merci.
Okay.
Dieu vous bénisse.
Roberto no va a cobrar no sé cuánto.
Roberto va nous prendre beaucoup, il nous attend avec la voiture. On va y aller. Il ne faut pas trop traîner ici, c'est pas la peine de trop traîner.
Hay dos cosas que yo critico personalmente.
Moi, il y a deux choses qui me gênent personnellement.
Sí. Que es el dinero,
l'argent
y el pecado.
El péché.
Ah. Porque el dinero trajo el egoísmo.
Parce que l'argent amène l'égoïsme.
El ladronismo.
Le vol.
Trajo el engaño.
La filouterie.
En nuestra comunidad no se practicaba la venta ni la compra.
Dans notre communauté à l'origine, il n'y avait ni vente ni achat.
No, solo se practicaba el intercambio.
C'était le troc qui se faisait ici.
Sí. Y este nada tenía precio.
Et rien n'avait de prix.
Sí. Y el otro. El pecado, como dije.
Et l'autre chose qui me gêne, c'est le péché.
En el mundo Pemón existía el bien y el mal.
Parce que dans le monde Pemón, il y avait le bien et
sí,
le mal.
Pero no había pecador.
Mais il n'y avait pas de pécheur.
No había santo.
Il n'y avait pas de saint.
No existía el diablo ni el ángel.
Il n'y avait ni diable ni ange dans notre culte Pemón.
Oui, mais si tu trompais ton mari, par exemple.
No había adulterio.
Il n'y avait pas d'adultère.
No había.
Ah, bah comment?
Había, porque en nuestra comunidad no se conocía el adulterio, que un hombre podía tener 8 esposas.
Il n'y avait pas d'adultère dans notre société, dans notre culture. Un homme pouvait très bien avoir 8 épouses.
Mais est-ce que oui, les 8 épouses pouvaient avoir 8 hommes chacune?
8 hombres. No, porque las mamás se lo daban al hombre, no era el hombre quien se lo llevaba.
C'est-à-dire que c'était les femmes qui s'offraient à l'homme, et c'est pas l'homme qui choisissait les femmes.
Ah.
Ajá. La mamá, si tú Gib trabajaba mucho, decían, Gib necesita otra mujer.
Par exemple, si moi Gib je travaillais beaucoup, et ben les femmes diraient, mais il travaille beaucoup, il a besoin d'une nouvelle femme, il a besoin d'une autre femme, d'une seconde femme.
Y porque de repente cazaba, buscaba comida.
Parce qu'il fallait aller chasser, il fallait prendre du manioc.
Entonces, para que viviera bien la muchacha, la joven, te lo daban a ti y no al flojo.
Pour pouvoir bien vivre, pour avoir une bonne vie, les femmes s'offriraient à moi et pas aux faibles.
Ah oui. Donc le fort, il a plus de femmes.
Sí. Entonces, no había pecado.
Donc il n'y avait pas de péché.
No había adulterio.
Pas d'adultère non plus.
No. Y bueno, pero después cuando llega las religiones, empezaron a quitarle las mujeres a los caciques, porque eso era pecado mortal.
Ouais. Et donc, quand les religieux sont arrivés ici pour baptiser les gens, bah, les femmes qui étaient plusieurs femmes pour un chef les ont quittées parce que c'était un péché mortel.
Y las mamás y los padres pemones dicen que ahí comenzó el adulterio.
Y los padres, los anciens pemones, han dicho que es a partir de ahí que comenzó el adulterio.
Bueno, ustedes pueden cantar si quieren también, si la conocen en la televisión. Empezamos con él. ¿Cómo se llama usted?
María.
María
Pérez.
María Pérez.
C'était une rediffusion du reportage à Canaima, au Venezuela, un reportage de Guy Vanctil. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. À la technique ce soir, Lidwin Caron et Mathias Saléon, réalisation Antoine Chao, assisté de Yann Chouquet et Pascal Pascariello, montage Raphaël Moutarde, chef du répondeur Christophe Imbert.